On lit pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les as de l'info. Même pas peur. Le biologiste qui pose des émetteurs sur l'aileron des requins. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 14 octobre 2025 dans les As de l'Info. Il y a présentement au moins 200 requins blancs dans le golfe du Saint-Laurent et dans l'Atlantique près du Canada. Comment on le sait? Ces requins sont munis d'un petit émetteur qui permet de les suivre. Imagine, il y a des gens dont le travail est d'installer ces émetteurs sur les requins. Comment font-ils? Est-ce que c'est dangereux? J'ai parlé à Xavier Bordelot, un biologiste qui traque les requins. Xavier est chercheur scientifique à l'Institut Maurice Lamontagne à Montjoly, en Gaspésie. Sa spécialité? Les mammifères marins. En fait, ce sont particulièrement les phoques qui l'intéressent. Il y en a beaucoup dans le fleuve et le golfe du Saint-Laurent. Xavier, c'est quoi le lien entre les phoques et les requins? Puisque j'étudie les phoques, je dois tout connaître d'eux. Ça inclut ce qu'ils mangent et ce qui les mange. Depuis quelques années, il y a un prédateur qui revient dans l'écosystème, le grand requin blanc. On doit donc mieux comprendre l'impact que ça aura sur la population de phoques. C'est pour ça que vous suivez des requins avec des émetteurs? Oui. Grâce à ça, on peut voir leurs déplacements sur la carte et mieux comprendre leurs mouvements. C'est la troisième année qu'on les marque, c'est-à-dire qu'on installe des émetteurs. On se rend autour des colonies de phoques gris des îles de la Madeleine. Cette année, on a marqué 28 requins. C'est le plus grand nombre jusqu'à maintenant, mais on ne réussit pas à tous les approcher. Comment faites-vous pour installer l'émetteur? On accroche des morceaux de viande tout autour du bateau et on attend que le requin s'approche. Pendant qu'il mange, on accroche rapidement l'émetteur dans l'aileron à l'aide d'une grande perche. On n'utilise pas d'hameçon, on ne les capture pas, on les touche à peine. Vous suivez combien de requins en tout présentement? Environ 200. On sait qu'ils arrivent dans le golfe au début du mois de juin. C'est en septembre qu'il y en a le plus. Puis, au début décembre, ils quittent pour aller en Floride. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant dans nos eaux? Oui, et ils y passent plus de temps. C'est probablement lié au changement climatique. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Non. Mais on doit être conscient qu'on partage notre habitat avec le requin blanc. Ce n'est pas un réflexe d'y penser au Québec. Il faut éviter de se baigner dans les endroits qui sont connus comme sites d'alimentation des requins, ça veut dire près des colonies de phoques. Est-ce qu'on s'habitue à côtoyer ces immenses prédateurs quand on les étudie? Non. Chaque fois, je trouve ça vraiment impressionnant. On travaille avec des collègues de la Nouvelle-Écosse, donc on parle beaucoup en anglais, et le mot le plus excitant qu'on peut entendre, c'est quand quelqu'un crie « shark », requin en anglais. Quand j'étais petit, j'aurais rêvé d'un projet comme ça sur les phoques gris et les requins blancs. Jamais j'aurais pensé que c'était possible de faire ça au Québec. As-tu déjà navigué sur le fleuve? As-tu déjà vu des baleines, des phoques, des poissons? Ou en rêves-tu? Raconte-moi. Ma belle-mère est une sorcière. Sous le charme de Juliette Aubé, un texte de Caroline Bouffard, paru le 8 octobre 2025 dans les As de l'Info. Avec un titre comme « Ma belle-mère est une sorcière », on pourrait croire que ce nouveau film québécois fait peur. C'est la saison de l'Halloween, après tout. Vérification faite, le film contient bien une boule de cristal, des potions et un cimetière, mais on frissonne plus de plaisir que de peur. Et on tombe sous le charme de Juliette Aubé qui joue Margot, une ado aux prises avec une belle-mère un peu spéciale. La comédienne de 14 ans a répondu à mes questions. « Est-ce que c'est ton premier rôle principal ?»« Oui, et j'ai vraiment aimé ça. J'étais présente tous les jours de tournage, je n'ai rien manqué, c'était cool. » Est-ce que Margot te ressemble? Comme elle, je suis fonceuse, impulsive, mais peut-être pas autant. Pour mon personnage, c'est une qualité parce qu'elle fait avancer l'histoire. Par contre, je suis plus sociable que Margot. Elle est timide. C'est là-dessus que j'ai dû travailler pour la jouer. Comment tu te prépares pour un rôle? Je travaille beaucoup mon texte pour bien comprendre mon personnage. Je me fais des fiches. J'essaie de trouver des manies, des tics. Par exemple, pour Margot, je regardais beaucoup par terre. Peux-tu me partager un secret du film? Oui. Il est arrivé quelque chose d'étrange pendant le tournage. Il y a un rituel de sorcellerie dans une scène. On était dans un sous-sol. On récitait des formules magiques en latin. Puis pouf! Panne d'électricité dans tout le quartier. Il n'y avait pas d'orage. Il ne pleuvait même pas. J'ai pas aimé ça. Crois-tu à la magie ou au surnaturel? Un peu. Des fois, il y a des trucs étranges qui arrivent. On dit que c'est une coïncidence ou de la chance, mais moi, je trouve qu'il y a plein de petits trucs qu'on peut appeler de la magie. Aimes-tu l'Halloween? J'adore. J'aime vraiment me déguiser, aller chercher des bonbons avec mes amis. Je trouve que c'est une belle fête. Ton meilleur costume à vie? Je pense que c'est l'année où je me suis déguisé en motard. J'avais une perruque, des lunettes fumées et une moustache. Personne ne me reconnaissait à l'école. Côté bonbons, tu as des préférences? Mes préférés, les mini-palettes de chocolat. Et ceux que je n'aime vraiment pas, c'est les petits triangles orange et blanc. Je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne comprends pas pourquoi ça existe. Et je n'ai jamais réussi à les échanger avec personne. Ma belle-mère est une sorcière, mon avis. Le film raconte l'histoire de Margot, une ado qui n'accepte pas la séparation de ses parents. Sa vie bascule quand, du jour au lendemain, son père tombe amoureux de Jeanne. La nouvelle belle-mère emménage tout de suite avec eux. Margot est convaincue que Jeanne est une sorcière qui a ensorcelé son père et, avec ses amis, elle essaiera de le prouver. J'ai adoré le film. Tous les acteurs sont si bons, si naturels, qu'on croit à leur histoire. On sourit et on rit beaucoup. Et on s'attache rapidement à Margot, qui a de la misère à s'adapter à sa nouvelle vie. Alors, est-ce que Jeanne, la belle-mère, est vraiment une sorcière? La réponse, au cinéma. Le film « Ma belle-mère est une sorcière » prenait l'affiche le 10 octobre au cinéma. Et toi, crois-tu à la magie? As-tu déjà été témoin de phénomènes inexplicables? On t'explique la paralysie du gouvernement américain. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 8 octobre 2025 dans les As de l'Info. Habituellement, ça bouge aux États-Unis. Mais là, c'est la paralysie. Depuis le 1er octobre, des centaines de milliers d'employés du gouvernement américain doivent rester à la maison sans salaire. Pourquoi? Parce que le Parti républicain et le Parti démocrate ne s'entendent pas sur le budget du gouvernement. Pas d'entente, pas d'argent pour payer les employés. Combien de temps ça va durer? Est-ce qu'il y a des impacts pour le Canada? Les réponses ici. L'ABC de la paralysie budgétaire. Ce sont les 100 sénateurs américains qui votent pour adopter les budgets. Sur ces 100 sénateurs, 53 appartiennent au Parti républicain de Donald Trump. C'est le parti au pouvoir. C'est lui qui veut faire adopter le nouveau budget. Donc, tous les 53 sénateurs républicains ont voté pour. 53 sur 100, c'est plus que la moitié. La majorité devrait l'emporter, non? Non. La loi dit que pour qu'un budget soit accepté, il faut que 60 sénateurs votent pour. Cela veut dire qu'il faudrait que 7 sénateurs de l'autre parti, les démocrates, appuient le budget du parti ennemi. Habituellement, c'est ce qui se passe. Le Sénat essaie d'éviter la paralysie. Mais pas cette fois-ci. Il y a beaucoup de tensions entre les deux partis. Résultat, le budget n'a pas été accepté, ce qui veut dire que le gouvernement ne peut pas payer ses employés. Quelles sont les conséquences? Depuis le 1er octobre à minuit, on dit qu'il y a un « shutdown » aux États-Unis. Ça peut se traduire par « le gouvernement est fermé » ou « le gouvernement est paralysé ». La conséquence directe est que 750 000 employés du gouvernement doivent rester à la maison sans salaire. Cela oblige les musées, les parcs nationaux et les monuments, comme la Statue de la Liberté, à fermer. Les gens qui ont des emplois essentiels, soldats, policiers ou contrôleurs aériens, doivent entrer au travail, mais ils ne sont pas payés. Ils recevront leur salaire une fois la paralysie budgétaire terminée. Les choses rentreront dans l'ordre quand le budget sera finalement adopté. Mais, depuis le 1er octobre, le Sénat a voté à 5 reprises. Le chiffre magique de 60 voix n'a toujours pas été atteint. Est-ce que c'est déjà arrivé avant? Oui, c'est arrivé 15 fois depuis 1980. Ça dure habituellement quelques jours. La plus longue paralysie du gouvernement américain des 40 dernières années s'est produite en 2018 pendant la première présidence d'un certain Donald Trump. Elle a duré 35 jours. Le Canada est-il affecté? Selon les spécialistes, si la paralysie ne dure que quelques semaines, il ne devrait pas y avoir d'impact important ici au Canada. Mais ça peut causer des soucis du côté du commerce et du transport. Comme les douaniers américains sont beaucoup moins nombreux que normalement, il se peut que des marchandises canadiennes envoyées aux États-Unis soient retardées à la frontière. Les voyageurs à destination des États-Unis pourraient aussi être touchés. Le manque de contrôleurs aériens dans les aéroports américains pourrait causer des retards ou des annulations de vols. Toi, accepterais-tu de voter pour un adversaire pour éviter la chicane? Explique-moi ton raisonnement. Pour ou contre ramasser les feuilles l'automne? Un texte de Caroline Bouffard, paru le 14 octobre 2025 dans les As de l'Info. Ah, l'automne et ses belles couleurs! L'air est frais et ça sent si bon. Mais déjà, les feuilles tombent. Dans une semaine ou deux, elles couvriront le gazon, les plates-bandes et les trottoirs. Ce sera alors le temps de la corvée de ramassage ou pas. De plus en plus de gens croient que c'est préférable de laisser les feuilles mortes sur le sol. Voici donc les arguments pour et les arguments contre ramasser les feuilles l'automne. Les arguments pour. Ça fait propre. Des feuilles pêle-mêle sur les terrains, les entrées et les jardins, ça ne fait pas propre. En plus, les feuilles font des taches en pourrissant, et quand elles sont mouillées, c'est glissant. Rien de mieux qu'une bonne corvée de nettoyage pour bien entretenir son terrain avant que la neige arrive. les accumulations de feuilles nuisent aux plantes. Les feuilles peuvent s'accumuler et former des tas épais. La pluie rend le tout très lourd. Avec le temps, de la moisissure peut apparaître, et quand le printemps arrive, le soleil ne parvient pas à réchauffer le sol couvert de feuilles mortes. Tout cela nuit aux plantes fragiles et au gazon. Vive les tas de feuilles! Sauter dans un immense tas de feuilles, c'est tellement le fun! Même les chiens adorent ça. Pour obtenir le Mont Everest des tas de feuilles, pas le choix. Il faut sortir le râteau. Une fois le jeu terminé, on met le tout dans des sacs oranges ornés de visages de citrouille, et voilà! De belles décorations d'Halloween, pas chères. Les arguments contre. Elles nourrissent le sol. En se décomposant, les feuilles libèrent des matières organiques et des minéraux qui nourrissent le sol. C'est un compost naturel et gratuit. Pour éviter qu'elles ne soient trop lourdes sur la pelouse, on peut passer la tondeuse sur les feuilles et les transformer en petits copeaux. Une couverture de la nature. Les feuilles mortes protègent la végétation du vent et du froid. En recouvrant des parcelles de sol nu, elles aident à prévenir l'usure et la perte de nutriments de la terre. Les insectes et les petits animaux s'abritent sous les amoncellements de feuilles pendant l'hiver. Éviter la pollution. Les camions à essence qui font la collecte des sacs de feuilles à l'automne polluent. Même chose pour les sacs en plastique qui servent parfois à ramasser les feuilles. Ils mettent des années à se dégrader. Et il y a la pollution sonore causée par les super bruyants souffleurs à feuilles. Et toi, es-tu pour ou contre ramasser les feuilles l'automne? Cancer, toutou et courage. Grégoire répond à vos questions. Un texte de Clémence Tessier, paru le 11 octobre 2025 dans les As de l'Info. Tu te souviens de Grégoire qui a écrit le livre « Les mystérieux toutous » à partir de sa chambre d'hôpital? Récemment, nous t'avions invité à lui poser des questions. 5 d'entre elles ont été choisies. Grégoire a pris le temps d'y répondre entre ses traitements contre le cancer à Toronto. Voici ce qu'il avait à nous dire. Leclerc, est-ce que ta maladie est là depuis que tu es né ou bien elle vient de commencer? Elle est arrivée d'un coup. À la fin de décembre 2023, je me sentais très fatigué et ça a continué pendant les vacances de Noël. Après plusieurs visites à l'hôpital, les médecins ont finalement découvert la vraie cause de ma fatigue, une leucémie. Cookie 123 demande « Comment as-tu fait pour écrire et publier ton livre et où as-tu trouvé ton inspiration? » J'ai inventé l'histoire pendant un cours à l'hôpital alors que j'étais aux soins intensifs. En une heure, toutes mes idées étaient déjà sur papier. Mon texte a bien fait rire mes parents. Mon père m'a alors proposé d'en faire un vrai livre. Et ma professeure a eu l'idée de contacter un illustrateur qui a réuni 13 collègues pour l'accompagner. Le livre est en auto-édition, c'est-à-dire que nous avons tout fait nous-mêmes. Gloriel demande « Comment s'appellent tes toutous et lequel est ton préféré ?» Mes deux toutous préférés sont Titom et Moï la Nana. Sans eux, je n'aurais pas eu la force de traverser ce que j'ai vécu. Ils étaient là quand j'ai été plongé dans le coma pendant 9 jours. C'est quoi le coma? Le coma, c'est quand une personne est endormie très profondément en raison d'une maladie ou d'un accident. Dans le cas de Grégoire, c'est un coma artificiel, c'est-à-dire que ce sont les médecins qui ont plongé Grégoire dans le coma pour protéger son corps et son cerveau pendant les traitements. Pendant ce coma, d'autres peluches sont apparues sur mon lit, dont Bart Simpson, Schtroumpf Coquet et Bébé Schtroumpf. C'est un de mes amis qui m'a offert mon premier toutou lorsque je suis tombé malade. Depuis, j'adore en avoir des nouveaux. Les plus importants sont ceux qui sont dans mon livre. Ils étaient avec moi à l'hôpital quand j'ai imaginé l'histoire. Juju 15 demande « Fais-tu l'école à l'hôpital? » Pendant mes traitements contre le cancer, je fais l'école à l'hôpital avec une professeure extraordinaire qui vient dans ma chambre une heure par jour. Sinon, je fais une heure par jour d'école à la maison avec une autre professeure tout aussi extraordinaire. Puisque je suis actuellement en traitement à Toronto, je fais l'école à distance. J'adore l'univers social et les sciences. Tortue de mer demande « Comment fais-tu pour être assez fort et traverser cette épreuve? » Il faut de la persévérance et du courage. Mes parents sont toujours avec moi. Mon père me fait souvent rire, même si parfois ses blagues ne sont pas toujours drôles. À l'hôpital, je lis des livres, je reçois un massage chaque semaine et quand je me sens bien, je participe à des activités comme la zoothérapie ou le bingo. Mais ce qui m'aide le plus, c'est de continuer l'école. Les IA apprennent-elles comme les humains? Un texte de l'équipe des As paru le 13 octobre 2025 dans les As de l'Info. Cet article fait partie de notre nouvelle série « IA, tu pensais? » dans laquelle on t'explique tout ce que tu dois savoir sur cette nouvelle technologie, évolution, force, limite, impact, pour que tu puisses réfléchir sur sa place dans la société. En 2024, des chercheurs ont créé une intelligence artificielle appelée Dreamer, qui a appris à jouer à Minecraft toute seule. Dreamer est considérée comme une grande avancée dans le domaine de l'IA parce qu'elle est capable de réutiliser ses apprentissages pour s'adapter à de nouvelles situations. Un peu comme toi, quand tu apprends de nouvelles choses. Est-ce que ça veut dire que les IA apprennent comme les humains? Voyons ça ensemble. Comment les IA apprennent-elles? De manière générale, les personnages de jeux contrôlés par une IA apprennent avec beaucoup d'exemples et par essais et erreurs. Elles reçoivent des points si leur action est bonne et en perdent si elle est mauvaise. Elles apprennent ainsi progressivement quelles actions sont les meilleures pour réussir dans le jeu, mais ça prend du temps. Je te donne un exemple. En apprenant à jouer à Minecraft, une IA est récompensée par le fait d'attaquer une poule parce qu'elle récupère de la nourriture. Plus tard dans la partie, elle croise un cochon. Il s'agit d'un élément inconnu de l'IA. Elle ne fait pas de lien entre la poule et interagit avec le cochon par essai-erreur pour découvrir quelle action lui rapporte le plus de points. Comment l'humain apprend? Tout comme l'IA, quand tu apprends, on te montre des exemples, tu passes par des essais, des erreurs, des compliments, des encouragements. Mais tu n'apprends pas comme un robot. La différence, toi, tu peux comprendre ce que tu apprends et ça change tout. Ça te permet de faire de nouveaux apprentissages en te basant sur ce que tu sais déjà. Reprenons l'exemple de Minecraft. Toi, après avoir attaqué une poule, tu ne retiens pas seulement que cette action est utile. Tu comprends qu'attaquer un animal te donne de la nourriture. Alors, quand tu rencontres un cochon, tu fais le lien. C'est un autre animal, donc tu peux aussi l'attaquer pour te nourrir. Et Dreamer dans tout ça? Contrairement aux IA qui font leur essai-erreur en jouant, Dreamer, elle, les imagine dans sa tête avant de les appliquer. Elle peut donc planifier ses actions avant d'agir réellement dans le jeu. Face à un nouvel événement, Dreamer imagine plusieurs actions possibles ainsi que leurs conséquences, en se basant sur ses expériences précédentes. Elle choisit ensuite l'action la plus susceptible de lui rapporter des points, sans avoir besoin de passer par de nombreux essais-erreurs. Même si Dreamer ne comprend pas forcément ce qu'elle apprend comme les humains, elle est capable d'imaginer comment le monde fonctionne et d'agir en conséquence. Tout comme toi. Prenons encore l'exemple de Minecraft. Dreamer attaque une poule et découvre qu'elle obtient de la nourriture. Elle enregistre cette information dans sa carte mentale. La poule est un objet en mouvement et l'attaquer rapporte des points. Plus tard, Dreamer attaque un monstre et gagne aussi des points. Elle ajoute cette nouvelle information à sa carte mentale. Le monstre est un objet en mouvement et l'attaquer rapporte des points. Enfin, Dreamer croise un cochon. Pour elle, c'est un nouvel objet en mouvement, grâce à sa carte mentale. Elle sait qu'attaquer un objet en mouvement égale point. Elle anticipe donc que la meilleure action est d'attaquer cet objet en mouvement. L'humain donne ses meilleurs trucs aux IA. Comme tu peux le voir avec Dreamer, les IA apprennent de plus en plus comme les humains. Cependant, elles ont encore du mal à raisonner ou à comprendre le pourquoi derrière ce qu'elles font. C'est tout de même une grande avancée, car ça les rend plus rapides et plus efficaces. Et toi? Est-ce que tu comprends forcément tout ce que tu apprends? Quelle est ta définition de comprendre? Donne-nous des exemples. C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Gilbert, Michel, Eva, Mathieu et Samuel.